La conquête du pain. Cinquième partie, chapitre 5. Par quel moyen, en effet, une cité, en pleine révolution sociale, pourrait-elle pourvoir à son alimentation? Nous allons répondre à cette question. Mais il est évident que les procédés auxquels on aura recours dépendront du caractère de la révolution dans les provinces, ainsi que chez les nations voisines. Si toute la nation, ou encore mieux, toute l'Europe, pouvait en une seule fois faire la révolution sociale et se lancer en plein communisme, on agirait en conséquence. Mais si quelques communes seulement en Europe font l'essai du communisme, il faudra choisir d'autres procédés. Telle situation, tel moyen. Nous voilà donc amenés, avant d'aller plus loin, à jeter un coup d'œil sur l'Europe et, sans prétendre prophétiser, nous devons voir quelle serait la marche de la révolution, au moins dans ses traits essentiels. Certainement, il est très désirable que toute l'Europe se soulève à la fois, que partout on exproprie et que partout on s'inspire des principes communistes. Un pareil soulèvement faciliterait singulièrement la tâche de notre siècle. Mais tout porte à croire qu'il n'en sera pas ainsi. Que la révolution embrase l'Europe, nous n'en doutons pas. Si l'une des quatre grandes capitales du continent, Paris, Vienne, Bruxelles ou Berlin, se soulève et renverse son gouvernement, il est presque certain que les trois autres en feront autant à quelques semaines de distance. Il est aussi fort probable que dans les péninsules, et même à Londres et à Pétersbourg, la révolution ne se fera pas attendre. Mais le caractère qu'elle prendra sera-t-il partout le même? Il est permis d'en douter. Plus que probablement, il y aura partout des actes d'expropriation accomplis sur une plus ou moins vaste échelle, et ces actes pratiqués par une des grandes nations européennes exerceront leur influence sur toutes les autres. Mais les débuts de la révolution offriront de grandes différences locales, et son développement ne sera pas toujours identique dans les divers pays. En 1789-1793, les paysans français mirent 4 années à abolir définitivement le rachat des droits féodaux, et les bourgeois à renverser la royauté. Ne l'oublions pas, et attendons-nous à voir la révolution mettre un certain temps à se développer. Soyons prêts à ne pas la voir marcher partout du même pas. Quant à prendre chez toutes les nations européennes un caractère franchement socialiste, surtout dès le début, c'est encore douteux. Rappelons-nous que l'Allemagne est encore en plein empire unitaire et que ses partis avancés rêvent la République jacobine de 1848 et l'organisation du travail de Louis Blanc, tandis que le peuple français veut tout au moins la commune libre, si ce n'est la commune communiste. Que l'Allemagne aille plus loin que la France lors de la prochaine révolution, tout porte à le croire. La France, en faisant sa révolution bourgeoise au XVIIIe siècle, est allée plus loin que l'Angleterre au XVIIe. En même temps que le pouvoir royal, elle abolit le pouvoir de l'aristocratie foncière, qui est encore une force puissante chez les Anglais. Mais si l'Allemagne va plus loin et fait mieux que la France de 1848, certainement l'idée qui inspirera les débuts de sa révolution sera celle de 1848, comme l'idée qui inspirera la révolution en Russie sera celle de 1789, modifiée jusqu'à un certain point par le mouvement intellectuel de notre siècle. Sans attacher d'ailleurs à ces prévisions plus d'importance qu'elles ne méritent, Nous pouvons en conclure ceci. La Révolution prendra un caractère différent chez les diverses nations de l'Europe. Le niveau atteint par rapport à la socialisation des produits ne sera pas le même. S'ensuit-il que les nations plus avancées doivent mesurer leurs pas sur les nations en retard, comme on l'a dit quelquefois? Attendre que la révolution communiste ait mûri chez toutes les nations civilisées? Évidemment, non. Le voudrait-on d'ailleurs, ce serait impossible. L'histoire n'attend pas les retardataires. D'autre part, nous ne croyons pas que dans un seul et même pays, la révolution se fasse avec l'ensemble que rêvent quelques socialistes. Il est fort probable que si l'une des 5 ou 6 grandes villes de France, Paris, Lyon, Marseille, Lille, Saint-Étienne, Bordeaux, proclame la commune, les autres suivront son exemple, et que plusieurs villes moins populeuses en feront autant. Probablement aussi plusieurs bassins miniers, ainsi que certains centres industriels, ne tarderont pas à licencier leurs patrons et à se constituer en groupements libres. Mais beaucoup de campagnes n'en sont pas encore là. À côté des communes insurgées, elles resteront dans l'expectative et continueront à vivre sous le régime individualiste. Ne voyant l'huissier ni le percepteur venir réclamer les impôts, les paysans ne seront pas hostiles aux insurgés. Tout en profitant de la situation, ils attendront pour régler leurs comptes avec les exploiteurs locaux. Mais, avec cet esprit pratique qui caractérisa toujours les soulèvements agraires, souvenons-nous du labour passionné de 1792, ils s'acharneront à cultiver la terre, qu'ils aimeront d'autant plus qu'elle sera dégrevée d'impôts et d'hypothèques. Quant à l'extérieur, ce sera partout la révolution. Mais la révolution sous des aspects variés. Unitaire ici, là fédéraliste, partout socialiste plus ou moins. Rien d'uniforme.